L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Sans plus tarder maintenant, juste avant la prédication, comme vous savez, nous avons des invités de la France, Pasteur Pat et Gladys Adboulom, qui sont avec nous de Paris. Et puis aujourd'hui, on va avoir ce couple pastoral qui vont faire du ministère, en commençant avec notre sœur Gladys, qui va venir faire un chant spécial maintenant. Donc vous pouvez l'accueillir chaleureusement, Gladys, Pasteur Gladys, qui va venir faire un chant aujourd'hui.
Je ne fais pas le chant toute seule, hein. Je suis accompagnée de votre belle équipe de louanges. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils font un beau travail. Vous aimez bénéficier de leur service? Est-ce que vous aimez bénéficier de leur service? Est-ce que vous aimez quand la louange, elle est là? Moi, j'ai passé un merveilleux temps tout à l'heure. Un très bon temps dans sa présence. Mais on veut continuer encore dans sa présence. Vous êtes d'accord? Là, on va continuer en chantant et ensuite, on va encore continuer dans sa présence en écoutant la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent.
More.
acclamer le Seigneur? Merci, Pasteur Gladys. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vais inviter Pasteur Pat Adboulom de Paris. On peut l'acclamer aujourd'hui, l'accueillir chaleureusement à EVQ. Si Pasteur Gladys veut saluer les gens aussi. Jolie surprise. Bienvenue, Pasteur Pat. Bienvenue chez toi. Amen. Amen, Pasteur Gladys. Merci pour ce beau chant bénissant. Donc, soyez les bienvenus à EVQ. Je vous donne la parole.
Ben, rebonjour. Merci pour votre accueil. Je vous souhaite de passer un excellent moment dans la parole de Dieu. Ayez les oreilles attentives, les oreilles de l'esprit qui écoutent, qui reçoivent, qui prennent tout ce que le Seigneur a pour vous ce matin. Amen. Pour nous ce matin. Amen.
Amen. Acclamons le roi des rois. C'est lui le seul qui est digne d'être élevé, d'être exalté. Vraiment, c'est un plaisir de vous revoir. Je disais, la semaine dernière, nous sommes venus avec 12 de mes jeunes. Et je dis souvent que quand j'invite un pasteur dans mon église, j'aime que les personnes de mon église viennent. Et je vous garantis qu'ils étaient vraiment dans l'extase. Vous savez, vous avez une grâce exceptionnelle. Vous savez, moi, je ne suis qu'un visiteur, je viens, je repars. Mais vous avez vraiment un couple pastoral exceptionnel. Des pasteurs vraiment qui sont excellents dans le Seigneur et qui vous aiment. Et vraiment, si vous devez acclamer quelqu'un, à part le Seigneur, bien sûr, acclamez vos pasteurs, s'il vous plaît. Acclamez-les parce qu'ils méritent vraiment votre amour, votre... Vous savez, on était là l'année dernière et je leur ai dit vraiment, l'atmosphère a changé. Vous êtes là, vous avez l'habitude d'être là, des fois on ne se rend pas compte du privilège et de l'opportunité qu'on a. Et vraiment, c'est vraiment une grâce et un honneur que me fait le pasteur Joël Spinks d'être présent. Et pasteur Mathilde aussi, et vraiment, je veux vraiment saisir, je ne veux pas faire n'importe quoi, parce que je crois que prêcher l'évangile demande une grande responsabilité. Amen. Amen. On va tous prier pour ce que Dieu va faire. Amen. On croit que Dieu est un grand Dieu, que Dieu est puissant. Amen. Que ce que Dieu a commencé, il va encore continuer encore plus et encore plus. Amen. Qu'il va y avoir des guérisons, des miracles et des prodiges. Amen. C'est ce que votre pasteur a dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Et moi, je crois que ce que il a dit, ce n'est pas par lui-même, il a été inspiré par Dieu. Amen. Saisissez vraiment ces paroles. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te bénir pour ces temps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Père. Et je crois, ô éternel, Père, que c'est ta parole qui nous conduit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu puisses encore étendre ta main, Seigneur, maintenant sur ma vie, Seigneur. Étends aussi ta main sur ton peuple, Père. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, Père. Je crois, ô éternel, Père, que tu vas répondre à des questionnements. Que tu vas répondre, Seigneur, à des prières, Seigneur, mon Dieu, moi, ce matin. Parce que, Seigneur, où tu étais, Seigneur, il y avait des miracles et des guérisons, Père. Et je crois que ce matin, Père, nous sommes au bon endroit et au bon moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que nous allons recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Alors, bénis ce peuple-là maintenant, Père. Je prie vraiment, Père, que tu ouvres les yeux de leur cœur. Afin qu'ils sachent, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, Seigneur. Quelles sont les richesses que tu as pour eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu as un Dieu qui est bon, parce que tu as un Dieu qui est merveilleux, Père. Que ton nom soit béni et élevé, que tout le peuple dise Amen. Amen. Waouh, quelle joie. Avant de commencer mon message, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui va parler de ce que j'ai vraiment eu à cœur pendant que je savais que le pasteur Joël nous avait invités pour le 12. J'ai vraiment pris du temps pour prier pour cela. Mon histoire, peut-être vous la connaissez déjà, je la raconte quelquefois dans mon église. Il y avait une famille qui partait en croisière. Pendant 10 jours, ils étaient sur leur bateau. Avec les enfants, ils profitaient de ce qu'il y avait. Et le père est arrivé à un moment donné au 9e jour, avant la fin de leur voyage. Il leur dit, voilà, j'ai cotisé pour avoir assez pour qu'on puisse profiter du repas, du dernier souper. Alors ils arrivent, tout, ils mangent ensemble, tout ça. Et le père qui va pour payer au serveur. Et le serveur dit, mais pourquoi vous voulez payer? Et bien il dit, ben, je paye mon repas. Il dit, non, quand vous avez payé le billet, tout était compris. Amen. Tout était compris. Ça suffit que pendant les 8 jours, ils étaient là en train de se préparer à manger. Pourtant, tout était payé. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je crois que des fois, dans la famille de vécu, dans la famille chrétienne même, des fois, on est sur le bateau avec le Seigneur et le Seigneur t'a tout accompli. Et des fois, nous ne réalisons pas cela. C'est pour ça que le thème de mon message aujourd'hui, ça sera notre vision de Dieu. Comment est-ce que vous et moi, nous puissions voir Dieu? Vous savez que notre vision de Dieu aura une incidence sur notre vie. Et j'aimerais vraiment en parler. Il y a 4 personnages qu'on va parler bibliquement. Et dans ces personnages, nous allons réaliser que chaque fois qu'ils ont rencontré Dieu, leur vision de Dieu a changé. Et leur vision d'eux-mêmes aussi a changé. Moi, je crois que Dieu est capable de tout. Amen. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des choses extraordinaires? Parce que c'est vraiment important. Parce que la Bible dit que il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Dieu a tout accompli sur la croix. Mais il demande une seule chose de notre part. Vous savez ce que c'est? La foi. Je sais qu'ici, on la prêche énormément. C'est pour ça qu'on appelle ça l'église de la victoire du Québec. Amen. Vous êtes des gens victorieux. Amen. Et à cause de cela, j'aimerais encore vous apporter quelque chose, si vous le permettez. Notre vision de Dieu. Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Pas le Dieu du pasteur Joël ou le Dieu du pasteur Jérémie. Pas le Dieu du pasteur Mathilde ou du pasteur Annabelle. Pas le Dieu du pasteur Michael. Mais j'aimerais que vous puissiez voir votre Dieu. Amen. Et c'est ça qui fera la différence dans votre vie. Qui fera de la réussite quelque chose. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et dans notre vision de Dieu, je crois qu'il y a une incidence sur notre vie. Ces 4 passages qu'on va parler ont un point commun. C'est que Dieu s'est révélé à eux. La vision de Dieu là, a bouleversé leur vie. Vous savez, on a besoin de connaître Dieu intimement. Nous pouvons venir chaque dimanche à l'église, venir chaque réunion sans que les choses ont changé. Parce que notre vision de Dieu a été obscurcie par notre passé, par notre histoire, par nos échecs souvent. Et par ce que nous avons pu entendre. Soyez bénis d'être à l'église Victoire du Québec. Parce que là, je crois que vous êtes dans un bon endroit et au bon moment. Et ça va vous régénérer. Amen. Et dans cette vision que nous allons voir, la première chose que j'aimerais dire, allons dans Luc chapitre 15. Je sais que certains la connaissent, l'histoire du fils prodigue. Amen. Dans Luc chapitre 15, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons l'histoire d'un homme qui a laissé son père. Et vous connaissez tous la fin de l'histoire, il est revenu à son père. Mais moi, quand je vais prendre cette histoire de ce fils prodigue, j'aimerais voir différemment, d'un autre angle, l'histoire. Pas d'un fils qui revient à son père, mais d'un père qui attendait son fils. Parce que la vision de Dieu changera toutes choses. Vous savez, moi, je crois que ma vision de Dieu aura une incidence directe avec mon développement et ma croissance. Pour croître en Dieu, pour grandir en Dieu, il faut que notre vision de Dieu soit différente de ce qu'on a vécu. Amen. Et de ça, quand nous regardons l'histoire du fils prodigue, tout le monde la connaît. Allons lire dans Luc chapitre 15, du verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ?» Ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Imaginez-vous, la vision du fils envers son père était différent de cela. Quand il quitta son père, il pensait vivre sa vie tranquille. Mais là arrive une famine, arrive des difficultés. Vous savez, moi je crois que quand je lis la parole de Dieu, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Si nous revenons au verset 20, il alla et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le regard du fils qu'il avait envers son père, c'est qu'il se disait, ouais, je ne peux pas revenir à la maison. Jusqu'au moment où il se trouve face, acculé aux difficultés, il dit non, j'ai qu'un endroit où on peut être aimé, c'est l'endroit où il y a mon père. Mais vous savez, si je lis l'histoire, son père n'a fait que l'attendre. Vous savez, si vous lisez au verset 20 qu'on a lu, il dit qu'il le vit au loin. Ça signifie quoi? Ça signifie que son père ne faisait qu'une seule chose, l'attendre. Attendre son retour. Mais ce fils pensait que son père était un père fouettard, un père qui allait le juger, un père qui allait le condamner. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé avec les carouges, avec les porcs. Il s'est retrouvé dans cet endroit parce que dans sa tête, il s'est dit non, là je suis parti, j'ai fait des erreurs. Si je retourne à mon père va me juger. Mais la Bible dit qu'il ne l'a point jugé. Il l'a accueilli comme quoi? Comme son fils bien-aimé. Imaginez-vous, ça signifie que pendant tout ce temps-là, il n'a fait que manger des mauvaises choses, vécu des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision d'un père qui n'était pas aimant, mais d'un père qui condamnait, d'un père qui était un juge. Ça signifie que dans cette histoire, sa vision de Dieu était différente de la vision que son père avait de lui. C'est la même chose quelquefois dans nos vies. C'est pour ça que je dis qu'elle a une incidence sur notre développement et sur notre croissance. Il aurait pu rester pendant des années, mais à un moment donné, il a ressenti quelque chose qui était différent. Mais pourtant, son père ne l'a jamais condamné. Il dit, apportez le veau, apportez un vêtement nouveau, car mon fils est de retour. Quelquefois, nous vivons des difficultés. Pas parce que Dieu veut qu'on passe par des difficultés. Nous vivons parce que nous pensons que Dieu ne va pas agir. Vous savez, sa vision a dû être transformée. Quand il a rencontré son père, il a compris quelque chose. C'est pour ça que dans cette histoire, c'est vrai qu'on parle du fils prodigue, mais j'aimerais vraiment que vous alliez du côté du père. Qu'est-ce que le père a fait? Il ne l'a pas jugé. Il est venu, il a dit, d'accord, tu veux partir, pars. En sachant qu'il allait vivre des difficultés. Mais il savait une chose, qu'il allait revenir et que son père n'allait pas le juger. Mais vous, quelle est votre vision ce matin de Dieu? Est-ce que c'est une vision d'un Dieu compatissant? Un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est là pour vous accueillir chaque jour de votre vie. Parce que quand nous lisons cette histoire, la seule chose que le Père a fait, il a couru vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'amour pour son fils. Et j'aimerais vous dire à chacun de vous aujourd'hui, Dieu vous aime. Il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour. Il n'y a aucun plus grand péché qui peut vous séparer. Parce que Christ a tout accompli. Changez cette mentalité-là. Changez cette idée dans votre tête, cette vision que si j'ai fait quelque chose, oh, Dieu ne voudra pas de moi. C'est faux, parce que Dieu a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Non, Dieu vous aime. Et quelquefois, on oublie ça. Ce fils prodigue aurait pu même lapider tout l'argent. Il aurait pu revenir le jour même parce que son père l'attendait. Imaginez-vous, la Bible dit qu'il le vit au loin. Et j'étais là en train de lire cette histoire. Chaque fois que je lis, je m'imagine en train de voir mon fils revenir. Je l'attends. J'ai dit, quand est-ce qu'il reviendra? Il n'attendait qu'une seule chose, de l'accueillir, de le serrer dans les bras. Lui dire, non, je ne te juge pas. Je t'aime tel que tu es. C'est pour ça qu'il lui a apporté des vêtements nouveaux. C'est pour ça qu'il lui a préparé quelque chose. Mais nous, quelquefois, à cause de notre histoire, à cause de notre passé, nous disons, non, mais si Dieu m'aime, il faut que je prie plus. Il faut que je cherche plus Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu approuve. Vous savez, la première chose qu'il approuve, c'est la foi et rien d'autre. La foi en son amour, la foi en son pardon, la foi en sa miséricorde. C'est ça qui fait la différence. Et comme je vous racontais cette histoire, si cet homme dans ce bateau avait compris qu'il y avait tout dans ce bateau, il y avait de l'amour, de la compassion, s'il savait qu'il pouvait manger du premier jour jusqu'au dernier jour, je peux vous garantir, il n'aurait pas attendu le dernier jour. Et nous, quelquefois, c'est la même chose. Dans le bateau de notre vie que Dieu nous amène au bon port, des fois on souffre, pas parce que Dieu veut qu'on souffre, c'est parce que nous nous souffrons nous-mêmes. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, il a dit qu'il a pris nos fardeaux, qu'il a pris nos souffrances. Déposez-les au Seigneur. Ce n'est pas vous et moi qui allons rajouter un plus pour le salut. Tout a été accompli. Il n'y a qu'une seule chose à faire, à marcher par la foi et à croire que Dieu est là. Amen. Et le fils prodigue a compris cela. Mais le Père, dans cette histoire, nous montre que peu importe les erreurs du passé, peu importe notre histoire, peu importe les blessures du passé, Dieu peut changer tout en un instant. Amen ou pas amen? Et j'aime cette histoire-là. Parce que je réalise combien mon père est aimant. Vous pouvez dépouiller tout ce qu'il vous a donné, mais il ne vous rejettera jamais. Parce qu'il vous aime. Et ça, quelquefois, nous devons le réaliser, vous et moi, que la vision de Dieu, que ma vision de Dieu aura une incidence sur mon développement, sur ma croissance. pour grandir dans la foi en Dieu, il faut comprendre que Dieu est amour. Amen. Quelquefois, on se dit, non, le pasteur Jérémy, lui, il a plus de choses parce que Dieu fait grâce. Vous savez, Dieu fait grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Dieu n'entend pas plus les prières du pasteur Joël ou du pasteur Mathilde plus que les vôtres. Ça, c'est l'idée, le concept, la conception que le diable nous a mis dans notre tête. Mais dès que vous priez, Dieu dit, j'écoute mon enfant. Dès que vous déposez vos fardeaux, il dit, je viens et je les prends. Dès que vous êtes face à des difficultés de la vie, face aux problèmes, il dit quoi ? Je prends tes fardeaux. Mais est-ce que tu veux le laisser ? Est-ce que tu veux te relâcher ? Est-ce que tu veux relâcher cela ? Parce que quelquefois, nous pensons dans la religion, et c'est pour ça que je dis que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation entre Christ et moi. Amen. La religion dit, si tu viens à Dieu, il faut que tu changes. Christ, il dit, viens comme tu es, et je vais te transformer. Alors, c'est pour ça qu'on doit venir à Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit venir tel que nous sommes. Et Dieu va nous transformer. Si nous le laissons nous transformer. Et ce Père vous attend encore. Je crois que quelquefois, notre Père nous attend tous les jours. La Bible dit que chaque matin, Dieu nous renouvelle de ses bénédictions. Ce matin, nous avons été renouvelés pendant la louange. Nous avons été renouvelés de sa bénédiction. Mais ce n'est pas seulement chaque dimanche. Ce n'est pas seulement chaque mercredi. C'est chaque matin. Imaginez-vous, chaque matin vous vous levez, Dieu dit, j'ai une bénédiction pour toi. J'ai de la paix, j'ai de la joie, j'ai de la guérison, j'ai de la compassion, j'ai de la miséricorde pour toi. Qu'est-ce que c'est merveilleux. On n'a même plus besoin d'aller à Walmart pour chercher quelque chose. C'est la réalité. Je ne fais pas de pub. Hein. On n'a plus besoin d'aller magasiner pour être heureux. On a juste besoin de venir dans sa présence. Comme ce fils prodigue avait compris. Il a dit non, je ne mangerai plus cela. Je vais aller chez mon père. Parce que chez mon père, il y a tout ce qu'il faut. On a besoin de réaliser cela. Mais quelquefois, on veut porter notre croix. Vous savez, vous ne portez plus votre croix. Christ a déjà tout porté. Qu'est-ce que j'aime ça? Vous savez, chaque matin, je me lève, je dis merci Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est plus fort que vos pensées, c'est plus fort que vos prières. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aucune condamnation. Imaginez-vous, votre histoire, votre passé, les gens peuvent vous dire, mais toi, tu étais comme cela. Mais Dieu dit non, c'est un enfant de Dieu. Il n'y a aucune condamnation. Peu importe notre histoire, peu importe notre passé, parce que Dieu l'a enlevé, Dieu l'a effacé. La Bible dit que le sang des boucs ne faisait que recouvrir le péché. Mais le sang de Jésus fait quoi? Il efface. Imaginez, il a effacé tout ce que vous avez fait auparavant, qui n'était pas digne de s'approcher de Dieu. Mais Dieu a dit non, maintenant je efface tout leur passé. Waouh! Quelquefois nos échecs nous suivent, n'est-ce pas? Vous savez, ce jeune homme, ce fils prodigue aurait pu rester pendant des années et des années, hein. Nous aussi, pendant des années, on peut venir à l'église, mais on sent tellement ce fardeau. Et on parle avec le pasteur, et on dit, et devant le pasteur, il nous parle, il nous exhorte, il nous encourage. Mais nous, on dit, mais non, écoute, tu connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Et moi, je dis souvent aux personnes, c'est vrai, je ne connais pas ta vie, mais Christ connaît ta vie. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Et je peux vous garantir que vous soyez Canadien, Français, ça ne change pas le Dieu. C'est toujours le même Dieu. Parce que quand vous vous approchez de lui, il est prêt à prendre chaque fardeau de votre vie. Et votre croissance dépendra de quoi? De la vision que vous avez de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas un Dieu juge. Dieu est un Dieu aimant. Et il vous aime tel que vous êtes. Que vous priez ou que vous ne priez pas. Que vous ne jeûnez ou que vous ne jeûnez pas. Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. » Amen. Waouh. Là, je pourrais m'arrêter là. Parce que quand je me rends compte de ce qu'a fait le Père, il a fait qu'une seule chose, nous attendre. Vous savez, quelquefois, on est là en train de se dire, « Ouais, merci Seigneur, je crois en toi. » Mais chaque jour de notre vie, Dieu n'attend qu'une seule chose, que tu viennes devant lui. Que tu viennes trouver le réconfort. Que tu viennes trouver la paix. Et quand je lis ça, je me dis, « Waouh, quel Dieu extraordinaire. » avec lequel nous marchons. Quel est ce Dieu-là qui peut faire de ton histoire du passé la déchirer et écrire une nouvelle histoire dans ta vie? Vous savez que vous et moi, nous sommes appelés à écrire des épîtres. Nous sommes appelés à écrire un livre pour Dieu. Mais Dieu ne va pas écrire sur ce que vous avez fait avant. Dieu va écrire à partir du moment que vous êtes prêt à l'écrire. Parce que Dieu veut écrire une histoire avec vous. Moi, je crois que chaque fois que Dieu vient, il veut construire quelque chose en nous qui est indélébile. Cet amour de Dieu, ce qu'il a accompli, c'est incroyable. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'on doit réaliser cela, c'est chaque jour de notre vie. Cet homme, je ne sais pas ce qu'il a pu faire, le fils prodigue. On raconte un peu ce qu'il a fait, mais on ne sait pas exactement jusqu'à où, quelle condamnation s'appuyait sur lui. Mais il a pris le pas, il a dit non, je vais vers la direction de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais sachez une chose, que si vous faites un pas, Dieu en fait mille. Et quand vous continuez l'histoire dans le verset 20, on se rend compte de quoi ? Il alla vers le Père, la Bible dit que le Père le vit, il fit quoi ? Il courut vers lui. Imaginez-vous quand vous vous levez le matin, le Seigneur court vers toi et tu dis, viens mon enfant, j'ai quelque chose de bon pour toi. N'est-ce pas merveilleux ? Hein ? C'est quand vous allez magasiner, vous voyez ceux qui vendent là, ils viennent à côté de vous, ils courent après vous pour vous donner des vêtements. J'étais avec les jeunes, ils aiment faire les magasins, les jeunes. Ils m'ont amené à Montréal, partout. On va aller dans les meilleurs magasins, parce qu'on a vu sur tête, on va aller là. Et j'ai dit, waouh. Et j'ai dit, c'est la même chose avec Dieu. Tu viens et Dieu court après toi pour te bénir. Dieu court après toi pour te guérir. Dieu court après toi pour te consoler. Imaginez-vous l'amour de Dieu. La deuxième histoire qu'on va voir, un deuxième autre homme que j'aime beaucoup et qui va avoir une incidence sur notre adoration et sur notre louange. Allons dans Exode chapitre 34. Vous connaissez tous cet homme, c'était un tueur, mais aussi celui que Dieu a choisi. Amen. Dans Exode chapitre 34, au verset 5 et 8, comme j'ai dit, quelle est notre vision de Dieu ? Je vous ai montré l'exemple d'un homme qui avait abandonné à un moment donné le chemin avec Dieu. Avec son père qui a dit, non, moi je ferme ma vie. Maintenant, je vais vous montrer un autre homme qui s'appelle Moïse, où Dieu s'est révélé d'une manière tellement extraordinaire qu'il ne pouvait plus qu'être un adorateur. Exode, chapitre 34, versets 5 et 8. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Vous savez, c'est un moment exceptionnel quand Moïse rencontre Dieu. Vous savez, le premier appel qu'il a eu, c'était de délivrer Israël, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez ? Mais le problème, c'est qu'il n'a pas délivré Israël. Il a été un meurtrier pour Israël. Et il a fallu attendre 40 années, 40 ans pour que Dieu fasse ce qu'il avait promis dans sa vie. C'est-à-dire pendant ces 40 ans dans le désert, il a dû apprendre de la bonté de Dieu. Et là, il se rend compte que Dieu est un Dieu miséricordieux. Miséricordieux, pas pour lui seulement, mais pour des générations à générations. Là, il y a une révélation qui va arriver. Et cette révélation va faire de quoi de lui ? Un adorateur. Moi, je crois, et c'est ce que dit la Bible, bientôt viendra un temps où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Vous savez comment on fait pour adorer Dieu ? C'est de réaliser qui est Dieu pour toi. La Bible dit dans ce verset qu'il adora Dieu parce qu'il avait compris, il avait réalisé, sa vision de Dieu avait été transformée et bouleversée. Quand on entend des fois des personnes louer, on dit, mais comment ils font ? Est-ce qu'ils ont des talents ? Non, ils ont compris qui était Dieu. Vous savez, Dieu ne cherche pas des talents. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs. Ceux qui reconnaissent qui il est et ce qu'il a fait pour lui. Et Moïse s'est rendu compte de ça, il a dit non, maintenant je veux l'adorer, le louer toute ma vie. Parce que je sais qui je sais, en qui j'ai cru. Et quelquefois nous oublions cela dans nos vies. Nous oublions que à qui nous devons l'adoration, c'est à Dieu seul. La Bible dit tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi de toute ta pensée ? Parce que ta pensée a été renouvelée par Dieu. Pourquoi de toute ton âme ? Parce que ton âme est reconnaissante de ce que Dieu t'a jamais oublié. Et pourquoi de tout ton cœur ? Parce que la première personne qui doit régner dans le trône de ton cœur, c'est Dieu. Mais pourquoi est-ce que Moïse a pu se rendre compte de cela ? Parce qu'il connaissait son histoire. Il connaissait ce que Dieu avait fait dans sa vie. C'est pour ça que sa vision de Dieu avait une incidence sur sa louange et son adoration. Il est devenu un adorateur parce qu'il avait compris qui était Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, s'il te plaît? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous rendez compte d'où nous sortons? Quelquefois, je me dis quel privilège j'ai qu'un jour un homme est venu me parler de Dieu. Quel privilège j'ai qu'une femme, ma femme, a pu prier pour que je me tourne vers Dieu. Quel privilège vous et moi nous avons que des hommes et des femmes ont plié leurs genoux pour que eux vécus existent. C'est vrai que quand nous venons, nous profitons de tout ça. Mais vous savez, nous profitons de quoi? De la prière d'hommes et de femmes qui ont payé le prix. Et nous ne pouvons que adorer Dieu. Quelquefois, je me dis, si je ne serai pas là, où je serai? Moi, je sais où je serai. Mais vous, est-ce que vous savez où vous pourriez être sans le Seigneur? Parce que c'est ça le plus important. Et ma vision de Dieu, c'est quoi? Cette vision que Moïse avait, il avait dit, non, je ne peux être que reconnaissant. Je ne peux faire qu'une seule chose, m'agenouiller devant sa bonté, m'agenouiller devant sa grâce, m'agenouiller devant combien il est grand et il est merveilleux pour moi. Parce que c'est ça un vrai adorateur. Quand nous nous mettons à genoux, quand nous chantons des chants pour le Seigneur, ce n'est pas dire « Oh, j'ai des belles paroles pour le Seigneur », c'est dire « Tout ce que mon âme vibre, tout ce que je ressens en moi n'est que amour sur amour. » Vous savez, moi je peux rester des heures et des heures parler de Dieu parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que vous et moi, nous pouvons rester des heures et des heures à parler de Dieu? Quelle est votre vision de Dieu, s'il vous plaît? Peut-être vous avez vécu dans une famille, et béni soit l'Éternel, où il n'y a jamais eu de problème. Mais peu importe, parce que vous étiez pécheurs quand même. Amen. Des fois, quand je rencontre des gens, ils veulent toujours raconter un grand témoignage pour dire, voilà, c'est ça qui a transformé ma vie. Vous savez, ce n'est pas le grand témoignage le plus important. C'est réaliser ce que Christ a fait sur la croix. C'est ça le plus important. Il n'y a pas besoin d'être voleur, il n'y a pas besoin d'avoir brûlé des voitures, il n'y a pas besoin d'avoir été violent, il n'y a pas besoin d'avoir fait ceci ou cela. Le plus important, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ à un moment donné sur ta vie et dire « Non Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur ». Mais souvent, nous aimons les témoignages clinquants. Comme on dit chez nous, les témoignages bling bling. « Oh là là, moi avant j'étais un délinquant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà maintenant je suis venu à Dieu ». Et là, on est stupéfait. Mais vous savez, moi je crois que Dieu aime chaque personne. Peu importe que tu aies eu des hauts et des bas. Peu importe que tu aies vécu dans une famille riche ou une famille pauvre. Peu importe si dans ta vie, il n'y a jamais eu de problème. Dieu est mort quand même pour toi. Parce que tu étais séparé de Dieu. Non pas pour ce que tu as fait, mais parce que Adam avait péché. Et ça, des fois, on oublie cela. Mais Moïse s'était rendu compte de combien il était bon. Alors il s'est mis à genoux et a dit, non, maintenant je veux t'adorer. Imaginez-vous, il s'est rendu compte qu'il était miséricordieux. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Regardez combien Dieu va se révéler à lui. Il est miséricordieux. Un Dieu si bon et si merveilleux. Celui qui ne juge pas, celui qui ne condamne pas. Il dit, viens mon enfant. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration, c'est ça qui aura comme incidence. Chanter des chants et rire, c'est beau. Mais les vivre, c'est meilleur. Je vous le garantis, vivre des chants. Comme ma femme chantait tout à l'heure, Dieu est puissant, on réalise combien Dieu est réellement puissant. Imaginez-vous, sa grâce nous a rachetés. Son amour nous a comblés de tout ce qu'il avait. Et se rendre compte de ça chaque jour, de dire oui, si j'ai un travail, béni soit l'Éternel. Si j'ai une famille unie, béni soit l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, des fois, il y a des familles qui vivent des difficultés. Vous devez bénir chaque chose parce que c'est Dieu qui a mis son sceau dedans. Amen. Et quelquefois, on oublie cela. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes, vous savez quoi, comme des enfants gâtés. On a accepté Christ, on a tout ce qu'il faut et on oublie que c'est par grâce. Bien sûr que vous et moi, on a des efforts à faire, mais tout est par grâce. Alors Moïse avait compris cela et sa louange et son adoration avaient changé. Sa louange et son adoration avaient été transformées. Il y a eu des choses qui ont fait que ça l'a amené à faire quoi? À le louer et à l'adorer. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin, en réalité, d'équipe de louange? Parce que quand vous êtes dans la maison, vous ne pouvez pas appeler pasteur Mathilde, dit « Mathilde, viens chanter, s'il te plaît. Il n'y a que pasteur Joël qui peut le faire, ça. » Est-ce vrai ou pas? On ne peut pas appeler le frère Stéphane, dire « Viens faire de la guitare. » Mais on peut le louer dès la maison. En chantant pour le Seigneur. En le remerciant. En disant « Merci, combien tu es bon et merveilleux de m'avoir racheté. Combien tu es bon et merveilleux de me faire vivre dans un si beau pays. » Vous savez, vous avez un privilège de vivre ici. Je racontais une histoire à des personnes, au frère Nathel. Vous savez, j'ai eu l'opportunité, le privilège de pouvoir voyager. Et moi, j'ai vu des personnes iraniennes, d'Iran, qui sont venues pour qu'on puisse les baptiser avec mon pasteur. Et vous savez, ils ont combattu le vrai combat de la foi. Je ne dis pas que vous ne combattez pas le vrai combat, mais je crois que c'est nous l'exception de vivre la vie tranquille, sans qu'on vienne nous chercher. Vous savez, quand vous allez franchir cette porte, il n'y a personne qui va vous attendre. En Iran, quand ils ont traversé la Turquie, ils avaient des Bibles. Ils n'ont pas droit d'être chrétiens. Ils sont lapidés pour cela. Et je parlais avec des personnes, ils ont vu des gens mourir. Ils ont traversé, pourquoi ? Pour le prix de ce que Christ a fait. Et je les voyais passer par les eaux du baptême. J'étais ému parce qu'ils ont payé le prix. Vous, le 2 août, vous allez passer un baptême, il n'y aura pas de police qui vont vous arrêter. Il n'y a personne qui va vous dire, tu ne dois pas confesser la foi. Mardi, quand on était aux réunions de jeunes à Guambi, je racontais à un frère qui est de mon pays au Vietnam, et je racontais qu'au pays où on est, ils n'ont pas la liberté de prêcher l'évangile. Il y a des églises souterraines. Vous savez, on est l'exception. Parce qu'en France aussi, on a l'opportunité de pouvoir prêcher l'évangile. Et ça, ne l'oubliez jamais. Même si vous ne savez pas comment adorer Dieu, remerciez-le pour le pays où vous êtes. Remerciez-le pour tout ce que vous avez ici. Parce que vous avez l'opportunité, le privilège de crier haut et fort votre foi. Parce que je peux vous garantir que des personnes ne peuvent pas le faire si librement. Et ça, des fois, on oublie ce privilège. On aime dire, oh là là, quelle chance, on a un beau bâtiment, on a la clim, oh c'est super. Mais vous savez, ce n'est rien comparé. Moi, je vous garantis, ces personnes ont compris la valeur. Et pourquoi je dis cela ? Parce que là, on peut dire, waouh, ça c'est des adorateurs. Quand nous lisons les épîtres, quand nous lisons ce que Paul vivait, vous savez, ce n'était pas comme cela où il se présentait dans l'église. Parce qu'à l'époque de Néron, Néron voulait le lapider, alors il se cachait. C'est pour ça qu'il faisait le poisson, pour dire, voilà, les chrétiens se réunissent là. Mais nous, nous avons le privilège d'être au Québec. Nous avons le privilège d'être en France, où on peut prêcher l'évangile comme cela. On n'est pas arrêté. Mais pourquoi je dis cela ? Parce que des fois, on oublie d'adorer Dieu pour la première chose. C'est qu'on est chrétien. Amen ou pas amen ? On peut se présenter en disant, je suis chrétien. On ne nous lapidera pas. On ne nous frappera pas. On dira seulement, oh, je m'en moque de ta religion. Je ne veux pas entendre parler. C'est rien ça. Moi, je vous le garantis, c'est rien. Mais si on te met en prison, on te frappe. J'ai rencontré un pasteur laotien. On l'a persécuté pendant plus de 10 ans de sa vie pour qu'il renie Christ. Et il me dit, mais pourquoi veux-tu que je le renie ? Je l'aime tellement, il a fait tellement de choses pour moi. Et là, ma foi était là en train de dire, waouh, merci Seigneur pour le privilège que tu m'as donné. De ne plus être dans ce pays, mais dans un pays où j'ai pu apprendre à te connaître, apprendre à avoir des bons enseignements pour pouvoir prêcher l'évangile. Amen. Et c'est ce que Moïse est arrivé. Moïse avait compris la révélation que Dieu lui avait donnée. Vous savez, à cette époque-là, quand on échouait, c'était pour toujours. Il avait l'impression que, comme il avait échoué pour la première fois, il disait, Dieu ne allait jamais le rappeler. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il l'a rappelé sur la montagne, n'est-ce pas ? Et sur la montagne, il s'est révélé à lui. Et quand il s'est révélé à lui, la Bible dit que quand il est descendu, il n'était plus jamais le même. Peut-être sur ton cheminement, tu dis, j'ai raté quelque chose. Ben, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tu n'as rien raté. Mais tout va commencer à partir du moment que tu laisses ta vie entre les mains de Dieu. Troisième personne que j'aimerais parler. Comme je dis, il y a 4 personnages. La troisième personne, allons dans le psaume 34, s'il vous plaît. Dans le psaume 34, versets 1 à 10, nous voyons un grand homme de Dieu qui s'appelle David. Amen. David va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Vous y êtes ? Alors, psaume 34, on y va. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. ta vision de Dieu peut avoir une incidence sur la confiance concernant tes besoins. J'aime beaucoup parler avec votre pasteur parce qu'il a, compris ce qu'est la vraie prospérité. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il a compris que pour vous, ça va agir dans votre vie. Vous avez besoin de réaliser ces mots-là. Vous et moi, nous avons besoin de comprendre que Dieu veut s'occuper de tous nos besoins. Il ne veut pas seulement que vous attendiez que le pasteur Joël, pasteur Jérémy ou pasteur Michael ait une parole, dire oui, on va prier pour vous. Vous devez vous-même réaliser cela. David, il était seul face aux difficultés. Vous savez, David a été appelé à être roi, mais là, il a dû attendre la mort du roi pour pouvoir prendre le trône. C'est-à-dire que pendant tous ces moments, il a dû apprendre à connaître qui ? Dieu. Ça veut dire à s'attendre qu'il va subvenir à chaque besoin. Et quand nous lisons ce psaume 34, nous réalisons que David ne dit pas seulement des mots, mais il dit ce qu'il vit. Vous savez, moi, je crois que les paroles de Dieu sont vies à partir du moment qu'on réalise qui il est. Dieu veut s'occuper de tous vos besoins. Dieu veut vraiment s'occuper de chacun de vous, personnellement. Parce que quand nous lisons, David dit quoi ? David réalise quelque chose. Regardez ce qu'il dit au verset 4. « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. » Au verset 4, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a livré de toutes mes frayeurs. » Waouh ! Si tu ne sais pas que Dieu peut prendre soin de toi, ça aura une incidence sur ta vie chrétienne. Parce que Dieu veut s'occuper de toi. Ton pasteur ne pourra pas s'occuper de toi. Même si demain il est millionnaire par la grâce de Dieu, il ne pourra pas pourvoir à vos besoins. Parce que Dieu s'attendra toujours à que toi, tu aies la foi. C'est à toi de croire que ce que tu fais va ouvrir des portes envers Dieu. Amen. Mais quelquefois, on est là en train de se dire, non, on attend que le pasteur Joël ait une parole. Ce soir, je crois que quand je vais venir ce matin, Dieu va donner une parole à Joël en disant, oui, tu seras béni, tu auras beaucoup de finances. Et vous savez, je veux dire une réalité d'une chose. Toutes les promesses de Dieu sont au conditionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu fais de ces paroles ? Est-ce que tu crois que Dieu peut pourvoir à tes besoins ? Est-ce que tu es comme David, censé dire non, Seigneur, je sais que mon âme t'exalte. Peu importe ce qu'il y a aujourd'hui, je sais que tu vas t'occuper de tout ce que j'ai besoin. Et ça, quelquefois, on est là, on s'attend que le pasteur Jérémy ait une parole, on s'attend que le pasteur Michael ait une parole. Mais Dieu dit, mais lis ma parole, lis, parce que dans ces paroles, ils sont esprit et vie. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, je crois que Dieu est Jéhovah Jiré, que Dieu est celui qui pourvoit en toutes circonstances, que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais tout dépend pas de moi, tout dépend de lui. Et tout dépend de où nos yeux sont orientés. La Bible dit que quand nous tournons nos regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. Waouh ! Il n'a pas dit, si tu tournes tes regards vers le site EVQ, je serai rayonnant de joie. Jamais. Il dit, si tu tournes tes regards vers moi, tu seras rayonnant de joie. Si tu tournes tes regards vers la parole de Dieu, il va pourvoir à tes besoins. Je sais que c'est difficile ça. Je sais que c'est difficile de croire. Amen. Mais vous devez croire. Parce que la Bible en parle. Ne croyez pas ce que le pasteur Pat dit. Croyez seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. On vit dans un monde où on dit non, on aura parce que voilà, si Dieu le veut. Vous savez, cet homme qui était avec sa famille, s'il avait compris que pendant les 9 jours, à la place de faire des conserves, à la place de rester dans son hublot là, tout seul avec sa famille en train de manger pendant qu'il pouvait festoyer avec les autres, il aurait changé. Et quelquefois, c'est ce qui nous arrive. On est dans le bateau de Dieu. On est là où tout est accompli, où Dieu a vraiment beaucoup de choses. Mais on attend d'arriver au port pour dire, Seigneur, ça y est, je suis arrivé. Vous savez, Dieu a plus que cela. Je disais à mon église, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Mais moi, je leur dis, vous ne dites pas ça. Vous dites que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Est-ce que dans le ciel, il y a des manquements ? Merci, amen. Au moins, je suis venu pour quelqu'un. Voilà, bravo. Est-ce que dans le ciel, il y a des manquements, s'il vous plaît ?
Non.
Est-ce qu'il y a de la maladie dans le ciel ?
Non.
Est-ce qu'il y a de la tristesse dans le ciel ?
Non.
Il y a quoi ? La joie, la paix, la guérison et l'abondance. Amen. L'abondance. Et quelquefois, nous ne le réalisons pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on nous a inculqué qu'être chrétien, c'est être pauvre. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est faux. Parce que Dieu a tout accompli. Si vous voulez être dans les malédictions, comme disait votre pasteur la semaine dernière, allez-y. Mais moi, j'ai choisi d'être dans le bon camp, dans celle où Dieu a tout accompli. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que je sois une source de bénédiction. Et dans la bénédiction, il n'y a pas de pauvreté. Dans la bénédiction, il n'y a pas de maladie. Dans la bénédiction, il y a la guérison, la paix, la joie. Amen. Mais ça, ça a une incidence sur notre vie. Parce que quand vous avez la vision d'un Dieu qui pourvoit juste un peu, vous n'aurez que le peu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est la foi qui construit toutes choses. C'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Mais qu'est-ce que c'est la foi ? C'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça qui va te nourrir, qui va faire en sorte que ta foi va se muscler jusqu'à un moment donné, tu dis, je crois. On a besoin de cela. Je sais que quelquefois dans nos échecs, on est en train de dire, oui mais Seigneur, je t'ai demandé, j'ai rien, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Alors vous êtes dans la foi. Amen. On a tous une portion de foi. Chacun de nous, nous avons assez pour que Dieu puisse faire de grandes choses. Mais pourquoi limitons cela ? Parce que notre vision de la vie chrétienne, elle n'est pas comme celle que Dieu veut qu'on voit. On nous a tellement inculqué pendant des années et des années. Non, mais Dieu ne va pas faire ça parce que non, demande pas trop à Dieu, tu vas le déranger. Vous savez, vous ne dérangez jamais Dieu. Vous le dérangez quand vous ne demandez pas qu'il agisse. C'est la réalité. J'ai compris ça dans ma vie chrétienne. J'ai dit non, Dieu veut vraiment pourvoir à tous nos besoins. Et cette confiance qu'on a, elle doit grandir dans notre vie. Allons dans le psaume 13, verset 6, et vous allez voir ce que dit. David dit encore quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai confiance en ta beauté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du. Car il m'a fait du. Waouh. Est-ce que vous avez vu qu'il m'a fait du mal? Car il m'a fait du. Ce Dieu-là de David, c'est le même Dieu. Le Dieu de David, c'est le Dieu de votre vie. On ne dit pas qu'il lui a fait du mal. On dit car il m'a fait du bien. Waouh, qu'est-ce que j'aime ce mot-là. Dieu m'a fait du bien. Oh, c'est extraordinaire. Quand je lis encore la parole, je réalise combien Dieu est bon. Et notre confiance concernant les besoins de notre vie dépendra de la vision qu'on a de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, lisez sa parole. Maintenant, on va parler de la quatrième chose, d'un autre homme de Dieu. Et cet homme, des fois, on le prend, mais on doit comprendre quelque chose. Allons dans Job. Vous aimez Job, hein? Les gens, ils aiment bien Job. Job, c'est l'histoire de ma vie. Mais il faut que ça soit votre histoire à la fin. Amen ou pas amen? Amen. Mais des fois, on fait de l'histoire de Job notre vie. Seigneur, tu entends mes souffrances, tu vois. Mais vous savez, les gens aiment bien ça. Mais regardez l'histoire de Job. Au chapitre 42, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a. Waouh! Regardez la révélation qu'il a. Au début, il ne connaissait pas Dieu. Il allait chaque fois écouter la parole. Il donnait son offrande. Il faisait tout ce qu'il avait à faire. Et là, il va passer pendant des difficultés sur difficultés. Des frères vont même le condamner. Mais à la fin de l'histoire, la Bible dit qu'il a eu deux fois plus que ce qu'il avait perdu. Pas une fois, deux fois plus. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans les difficultés, Dieu est toujours avec toi. Dans les souffrances, Dieu ne t'abandonne pas. Mais il y a quelque chose qu'il a appris dans cela. Amen. N'oubliez pas, ce n'est pas Dieu qui amène les épreuves. Amen. Mais ce que je veux dire, derrière cette épreuve, il a compris quelque chose. Il a compris, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a. N'est-ce pas une grande révélation? Job connaissait Dieu d'une manière. Celui qui ne s'occupait pas de lui. Il disait, non, si ça m'arrive, c'est parce que j'ai fait ceci, cela. Mais il va comprendre dans le Job, chapitre 42, verset 5. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille t'a vu. C'est-à-dire que ce que j'ai vu maintenant avec mes yeux, tu n'es pas celui que je pensais être. Waouh! Vous imaginez la vision qu'il avait dans les moments de souffrance, dans les moments difficiles. Il s'est dit, non, personne n'est avec moi. Je suis tout seul, tout le monde m'a abandonné. Mon pasteur m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Écoutez-moi bien, Dieu ne vous abandonnera jamais. Et je vais vous le prouver bibliquement ça. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est biblique. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que Job avait compris ça. Je sais que les gens aiment bien. Vous pensez que j'allais vous parler de Job 1, 2, 3, 4, 5, 6? Non, allons dans Job 42. Je bénis l'Éternel que je ne sois pas Job. Amen. Je préfère être Job au chapitre 42, verset 5. Je vous le garantis. Je préfère être Job, chapitre 42, verset 5. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'avais entendu parler que tu guérissais, mais maintenant mon œil a vu que tu m'as guéri. J'avais entendu parler que tu es celui qui pourvoit, mais maintenant mon œil a vu que tu es un Dieu d'abondance. C'est pas beau ça? Vous voulez qu'on revienne à Job 2? Si vous voulez, on peut revenir, hein, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas bon. On a le privilège de pouvoir tourner les pages. Amen. De pouvoir dire ça, c'était hier. Aujourd'hui, une nouvelle destinée commence. Amen. Ce qui était hier est hier. Ce qui est devant nous est bien meilleur. C'est pour ça que ce message sur ma vision de Dieu doit vous changer. Dire non, ce que j'étais hier, et aujourd'hui, je ne serai plus le même. Parce que chaque fois que vous venez le dimanche, c'est pourquoi? C'est pour dire ce que tu étais hier, tu ne le seras plus demain. Parce que je crois qu'on change l'avenir, pas ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En venant chaque fois à l'église, en venant dans votre église, à chaque réunion, Dieu est en train de changer votre avenir. Un jour, quelqu'un me disait, « Pasteur, j'ai des problèmes. » Je lui dis, « Mais où c'est tes problèmes ?» Il me dit, « Oui, j'ai eu ça, ça, ça. » Je dis, « Mais fallait venir, la semaine dernière, on a parlé de ça. » Vous savez, quelquefois, Dieu répond à vos prières. Mais vous savez comment? En venant à l'église. Parce que quand le pasteur Joël, ou le pasteur Michael, ou le pasteur Jérémy va parler, « Oh, merci Seigneur, j'avais besoin de ça. » Mais quand vous restez à la maison, comment Dieu va vous répondre? Ah, mais attends, pasteur, le Seigneur, le Saint-Esprit va me parler. Ah bon? Je sais que le Saint-Esprit parle à tout le monde. Mais je crois qu'en venant à l'église, on reçoit. Parce que la Bible dit, voici qu'il est doux et agréable que des frères soient ici ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa... Amen. Pasteur Joël, merci. Sa bénédiction. Amen ou pas amen? Alors quand vous venez, vous êtes en train d'emmagasiner pour ce qui vous attend dans l'avenir. Et là, Job avait compris quelque chose. Il a dit non, j'avais entendu parler de ta bonté. J'avais entendu parler de ta main miséricordieuse. Mais maintenant, mon œil t'a vu. La semaine dernière, vous avez entendu parler que Dieu guérit. Amen. Combien de personnes ont vu cette semaine Dieu guérir? Amen. Ah, gloire à Dieu. C'est magnifique. Oui, ma femme, je sais, tu as vu. Vous voyez, ces personnes-là, parce qu'ils ont mis en pratique. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique, car pour vous, cela est salutaire. Ça veut dire quoi? Cela va apporter du fruit dans ta marche avec Dieu. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, et c'est celle qui nous conduit. Pas la parole de Job, comprenez bien. La parole de Job, chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelle vision il avait. Après toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, il aurait pu dire non, Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là, Dieu m'a abandonné. Mais il a dit non, je tiens parce que je sais en qui j'ai cru. Vous savez pourquoi? Allons dans Romains. Romains est une parole que j'aime beaucoup. La vision de Job, que Dieu n'abandonne jamais. Romains chapitre 8, verset 31-39. Je sais que certains la connaissent, mais j'aimerais la rappeler. Romains chapitre 8, au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'attribution ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de manifester, hein? Waouh! Vous imaginez? quand Paul écrit ces mots-là, il est face à une grande tribulation. Vous savez, ce que Paul a vécu, personne n'aurait pu le vivre. C'est pour ça qu'il a été appelé. Mais face aux tribulations, face aux difficultés, il a dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien dans ta vie ne peut séparer de l'amour de Dieu. Qui peut te condamner? Qui peut te juger? Rien. Et chaque fois que je lis ça, je me dis, ces difficultés sont pour une saison. Peu importe aujourd'hui les moments difficiles que je passe. Peu importe les moments de tribulation. Parce que je sais que je sais que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Waouh! C'est cette vision que vous devez avoir face aux difficultés. Parce que si je vous dis que vous n'aurez pas de difficultés, je suis un menteur. Parce qu'on est toujours face à des difficultés, face à des épreuves dans la vie, des tsunamis, des moments difficiles. Mais une chose que je sais, que même dans les moments difficiles, Dieu est toujours avec nous. Alors vous qui passez par la souffrance, sachez que Dieu ne vous abandonnera pas. Mais derrière cette souffrance, vous pourrez dire à un moment donné, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous ne direz pas, pasteur Joël est venu me consoler. Non, Christ est venu me consoler. Parce que c'est ça la réalité du ministère. C'est de faire en sorte que nous, en tant que ministres, vous donnons les clés, à un moment donné, de pouvoir les tourner. Afin que vous-même, vous rencontrez ce Dieu qu'on connaît. Amen. On n'est pas là pour tourner votre foi. Vous êtes là afin de tourner la porte, afin que la bénédiction vienne dans votre vie. Amen. Et la quatrième et dernière chose que j'aimerais parler, et cet homme, c'est encore David. Parce que je crois que ma détermination, ma vision aura une incidence directe sur mon audace dans la vie. Vous savez, être audacieux pour Dieu, il n'y a pas mieux. Amen. Moi, je crois, et ce que je dis souvent à mon église, je dis qu'il n'y a pas plus convaincant que de quelqu'un de convainc. Merci. C'est bien dit. Il n'y a pas... Hein? Voilà, on est convaincu. Et quelquefois, quand on entend des personnes... Je vous assure, je ne suis pas convaincu. Parce que je crois qu'être convaincu, c'est être sûr de soi. Amen. Et dans cette vision, elle aura un impact sur l'audace que vous avez. Quelle est la vision que vous avez de Dieu? Est-ce que vous avez la vision que votre Dieu est un Dieu puissant? Amen. Est-ce que vous avez la vision que Dieu est celui qui guérit? Parce que si vous allez vers quelqu'un et que vous n'avez pas cette conviction-là, la personne va fuir. Amen. Et dans ce passage, nous voyons un jeune homme qui s'appelle David. Regardez bien, 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Il arrive pendant ce moment où Goliath pavane devant tout le monde. Ça se dit pavaner. Hein? Merci. Ce pavane sur le peuple d'Israël en disant, mais où est votre Dieu? Vous savez, David n'était pas formé à être un militaire. Lui était formé d'être un berger. Et là, on voit qu'il arrive avec cette audace. 1 Samuel chapitre 17 au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Imaginez, ce jeune homme n'a pas été formé pour la guerre. Ce jeune homme, lui, ses frères, a été formé pour la guerre. Lui était seulement venu, vous savez pourquoi faire? Donner un repas à ses frères. Son père lui avait dit, va, tes frères auront faim, amène-le le repas. Et lui, là, il entend ce Goliath. Il entend cet homme qui lui dit, ouais, où est votre Dieu? Et qui est celui-là? Il y a quelque chose qui monte en lui. Vous savez quoi? L'audace. Et quelquefois, c'est ce qui manque en nous, cette audace. Et on va voir pourquoi il avait cette audace-là tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, là, il est devant tout le monde, il dit, voilà, qui est cet homme qui veut combattre contre l'armée de Dieu vivant? Il savait dans quel camp il était. Dans quel camp vous êtes aujourd'hui? Normalement, on devrait être dans le camp de la victoire. C'est pour ça qu'Église de la victoire du Québec, c'est ça. Si vous devez comprendre quelque chose, un seul message aujourd'hui, la victoire. Vous êtes des gens victorieux. Vous êtes des gens vainqueurs. Et dans ce passage-là, nous nous rendons compte de quoi? Il dit, mais qui est cet homme? Devant toute cette armée, imaginez-vous, un simple homme qui ne comprenait rien lui dit, qui êtes-vous? Il a dit, vous êtes, je marche avec le Dieu de la victoire. Mais regardez bien plus loin, parce qu'on va lire au verset 31 et 37. Parce que cette audace n'est pas le fruit de la présomption, ni de l'insouciance, mais il avait une connaissance intime avec Dieu. Et nous allons le voir comment. Regardez ce qu'il dit au verset 31 ou 37. « Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu as un enfant et il est un jeune, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Au verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Cette audace, ce n'était pas de la présomption. Il avait une vie d'intimité avec Dieu. Vous savez qu'est-ce qui fait qu'on soit audacieux ? C'est la vie que vous menez avec Dieu. Si vous priez une fois par mois, il n'y aura pas d'audace. Mais si chaque jour, vous avez une relation intime avec Dieu, même les gens qui seront à côté de vous, vous me diront, « Mais t'es un fou. » C'est la réalité. Parce que vous savez que vous ne comptez pas sur vos efforts, vous ne comptez pas sur vous-même, vous comptez sur celui qui peut tout. La Bible dit que rien n'est impossible à... Merci. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui... Waouh ! Vous imaginez ? Tout est possible. Quelquefois, j'essaie d'imaginer, c'est quoi ce mot « tout » ? Nous limitons des fois Dieu sur des choses. Nous pensons des fois que Dieu ne peut pas faire parce que dans notre vision des choses, elle est différente. Mais pourquoi est-ce que David pouvait parler comme cela ? Parce qu'il a vu Dieu agir à chaque moment de sa vie, le délivrer. Imaginez-vous, il n'était pas formé pour la guerre. Ça veut dire humainement, il n'était pas fait pour cela. Quelquefois, on dit, mais Seigneur, je n'ai pas assez d'école biblique, je n'ai pas assez d'années de vie chrétienne. Mais le Seigneur dit, si tu as assez ce qu'il faut, c'est juste que tu te marches, que tu marches et que tu marches et tu vivras de victoire en victoire. Quelquefois, les gens disent, oui, mais moi, j'ai pas la même expérience que pasteur Joël. Mais ça fait rien parce que Dieu veut créer cette expérience avec toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais est-ce que tu sais que tu marches avec le Dieu de victoire? Est-ce que tu sais que ce Dieu-là, le Dieu de victoire du pasteur Joël, c'est le même Dieu que tu as? Le Dieu de victoire du pasteur Jéry, c'est le même Dieu que tu as. Le Dieu de victoire du pasteur Michael, c'est le même Dieu que tu as. Et c'est pour ça qu'il dit, pour ça que Saul, il dit, mais tu es fou. Il devait dire ça, mais il dit, regarde comment tu es. J'imagine voir David, même la Bible dit qu'il ne pouvait même pas porter l'armure du roi. Il avait juste une petite lance-pierre et une pierre, mais ça a suffi pour terrasser. Ça montre quoi ? Que ce que tu as est suffisant pour terrasser tes montagnes, pour terrasser tes Goliaths. Tu n'as pas besoin de la foi de plus du pasteur Joël. Tu n'as pas besoin de la foi du pasteur Mathilde. Tu as seulement besoin d'une seule chose. De ce que tu sais et de le mettre en pratique. Vous savez, moi je crois que le plus grand écart qu'il y a entre l'action de Dieu et nos vies, vous savez, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la connaissance, c'est l'action. On manque beaucoup d'action dans nos vies. On manque beaucoup de dire non, je crois et j'y vais. C'est ce que vous a dit le pasteur Joël la semaine dernière. Amen. Peu importe les échecs de ta vie, parce que Dieu fera toujours te renforcer dans ta foi afin de grandir et de grandir. Amen. Mais quelquefois, nous sommes là en train de dire, « Oui, mais moi, je ne suis pas David, mais tu es plus que David. » Vous savez pourquoi ? Parce que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le... David n'avait pas le roi des rois en lui. David n'était que revêtu de la présence de Dieu. Mais nous, on est le temple du Saint-Esprit, celui qui peut faire toutes choses, celui qui peut faire des choses extraordinaires. Mais que faisons-nous pour cela ? Et quand je lis encore la parole de Dieu, quand je commence à lire cette histoire, je dis, waouh, quelle audace, cette audace. Ce n'était pas de la présomption de la foi. C'était une expérience d'intimité avec Dieu. À chaque difficulté de sa vie, il a dit, Seigneur, tu peux me délivrer. C'est pour ça que je crois, et je répéterai les mots que Job a dit. David devait dire ça. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et c'est ça, ta vision de Dieu. Où notre vision de Dieu, elle doit changer. Tes échecs ne sont rien par rapport à ce que Dieu a pour toi. Vous savez, quelquefois, on doit travailler, travailler, travailler. Je me souviendrai toujours que j'aime prier pour les malades. Mais le jour où Dieu m'a utilisé pour guérir une personne qui a été sourde de naissance, je n'ai rien attendu du tout. La personne est venue, j'essaie de dire, « Interprète, tu peux parler avec lui ?» Il dit, mais il n'entend rien. Alors j'ai fait quoi? J'ai seulement fait ce que dit la Bible. Vous imposerez le malade et le malade seront guéris. On a prié. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre vous et moi? Rien. Juste à dire, ma main suffit pour guérir. Amen ou pas amen? Nous ne sommes pas supérieurs à vous, même si c'était sera détréhende, mais nous sommes pareils que vous. La différence, c'est que nous musclons notre foi quotidiennement. Nous faisons en sorte que le Dieu qui est là, il nous remplisse afin d'agir. Ma vision de Dieu est différente parce que j'ai rencontré Dieu différemment. Mais ce même Dieu que j'ai rencontré, c'est le même Dieu que vous avez. Mais votre vision doit changer. Ce n'est que ça qui est important. Notre vision de Dieu. Est-ce que Dieu est celui qui pourvoit? Croyez à cela. Est-ce que Dieu est celui qui veut qu'on l'adore? Croyez à cela. Est-ce que Dieu est celui qui nous donne de l'audace? Croyez à cela. Qu'est-ce qui a donné de l'audace à l'Église primitive? La même chose que nous avons en nous, le Saint-Esprit. Et je crois réellement que ce matin, Dieu veut vraiment qu'on se lève. Parce que vous êtes vraiment des personnes qui sont riches en paroles. Mais ces paroles, s'il vous plaît, ne marchez pas dessus. Vous et moi, nous sommes appelés à dévaliser l'enfer afin de remplir le royaume des cieux. C'est notre seul rôle. Nous sommes là pour dévaliser les hôpitaux afin que Dieu nous utilise pour guérir. Moi, je crois qu'un réveil arrive. Mais si je le crois, je le verrai. Mais vous, que croyez-vous? Moi, je crois qu'on arrive où des hôpitaux vont se vider. Des médecins vont revendiquer en disant « Arrêtez-les, ils nous empêchent de gagner notre vie. » Mais nous, on dira « On remplit le royaume des cieux. » J'ai cette certitude de ce qui va arriver dans mon pays. Beaucoup de gens ont peur de mon pays en me disant « Oui, il y a beaucoup de musulmans. » Moi, je peux vous dire une chose. Je crois que le christianisme va monter au-dessus. Parce que où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est pour ça que c'est ma terre promise. Et je sais le défi que Dieu nous appelle à avoir. Mais je sais une chose, que celui qui vit en moi est plus grand que tout. Que celui qui vit en nous est plus grand que toute religion. Est plus grand que tout péché. Parce que Dieu est puissant. Amen. Alors votre vision, j'espère. Je ne vous demande pas d'avoir les quatre. Je vous demande seulement que si une vision vous a touché, s'il vous plaît, saisissez cela. Qu'on puisse dire comme Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » On peut prier? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te bénir, Seigneur. Parce que vraiment, tu es un Dieu extraordinaire, Seigneur. Tu fais des choses extraordinaires, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous croyons réellement, Père, que tu veux que notre vision que nous avons de toi puisse être transformée, renouvelée, Seigneur. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence de la parole, Père. Et je prie au éternel, Père, que réellement, Père, tu puisses vraiment nous renouveler, Seigneur, nos pensées, Père. Que si nous te limitions sur certains domaines, Père, ouvre les portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que vraiment nos pensées, Seigneur, soient ouvertes, Seigneur, afin de rentrer dans cette destinée que tu as pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que nous puissions vraiment, Père, faire ce que tu nous demandes de faire. Accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que nos échecs, que nos passés, Père, ne nous limitent plus, Seigneur. Mais que nous voyons cela, Seigneur, comme une opportunité, comme un tremplin, Seigneur, pour rentrer dans cette destinée que tu as pour nous, Père. Parce que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est toi le Dieu incroyable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que réellement, Père, que tu puisses encore nous renouveler, Seigneur, de ta parole. Que ces paroles, Seigneur, soient esprit et vie, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que ces paroles deviennent vie et réalité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que si des personnes ont besoin de guérison, Père, je prie maintenant pour une guérison, Seigneur. Que s'ils ont besoin de consolation, Père, je prie pour une consolation, Père. S'ils ont besoin d'être renouvelés, Père, je prie vraiment que tu restaures, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que ceux qui se sentent disqualifiés, Père, je prie, Seigneur, que tu les qualifies pour ta course, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, parce que toi, tu ne nous disqualifies jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu nous appelles, Seigneur, à courir dans cette carrière et à saisir cette couronne que tu as pour nous, Père. Alors étends encore ta main, Père, que tu puisses encore agir, Seigneur, sur ton peuple, Père, que tu puisses encore te glorifier, Père, parce que je crois que cette église, Seigneur, tu as des plans et des buts, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que s'il y a une atmosphère comme cela, Père, c'est que tu veux encore faire plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que tu veux vraiment balayer ce lieu par le feu du Saint-Esprit, Père, que tu puisses vraiment faire pleuvoir, Seigneur, la pluie de la première de l'arrière-saison, Seigneur. La Bible dit où il y a l'onction, Père, les chaînes tombent, Seigneur. Et je prie réellement, Père, pour la pluie de la première, de l'arrière saison, Père. Que réellement le feu, Seigneur, puisse tomber ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que le feu puisse brûler, Seigneur, notre passé, nos échecs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Afin, Seigneur, d'avancer, Père, vers une nouvelle destinée, vers cette vision que tu as pour nous, Seigneur. Que réellement nous puissions, Seigneur, marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que nous puissions voir, Seigneur, nos familles se convertir. Que nous puissions voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, nos proches guéris, Seigneur. Parce que c'est ton désir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Père. Que réellement, Seigneur, que tu puisses encore parler à nos cœurs. Que tu puisses encore agir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Sèche les larmes, Seigneur. Que tu puisses réellement sécher les larmes, Seigneur. Quelquefois, Seigneur, nous sommes comme ce fils prodigue, Père. Nous avons arrêté notre course, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais je prie réellement, Père. Parce que, Seigneur, tu ne nous disqualifies pas, Père. Mais tu nous aimes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu nous dis, viens. Parce que tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Père. Quelquefois, Seigneur, nos vies, nos échecs, Seigneur, sont plus forts, Seigneur, que nos prières. C'est cette impression qu'on a, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais ta parole dit, Seigneur, que tes promesses sont grandes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et que tu vas agir, Seigneur, puissamment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es grand et glorieux, Seigneur. Alors agis encore, Seigneur. Agis, Seigneur, parce que tu es bon. Parce que tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es glorieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. J'aimerais finir par ça, si vous le permettez. J'aimerais demander à ma femme. Oui, Mathilde, viens. Je veux montrer une image, vraiment, que quelque chose qui me frappe depuis ce matin. Vous connaissez tous l'histoire du roi Salomon. À un moment donné, une femme vient. Deux femmes viennent et disent, c'est mon bébé. Est-ce que vous comprenez cela? Et là, nous allons prendre cet exemple-là. Parce que quelquefois, nous avons besoin de réaliser que quelquefois, des personnes ici pleurent en disant, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Regardez ces deux femmes. Là, il y a cette femme qui a eu un enfant. Et cette deuxième femme a eu un enfant, d'accord? Le problème, c'est que elle, en dormant, son enfant est mort. Et cette femme, son enfant vit. Un soir, cette femme vient et prend le bébé. Et elle se réjouit. Et cette femme pleure. Mais excusez-moi, celle qui doit pleurer, c'est celle qui se... C'est pas elle, n'est-ce pas? Celle qui doit se réjouir, c'est elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bébé n'est pas mort. Les promesses que Dieu vous a données ne sont pas mortes. Elles sont seulement voilées parce que le diable essaie de vous cacher les choses. Là, cette femme, elle doit se réjouir. C'est elle qui doit pleurer parce qu'elle a vraiment perdu. Mais elle vient avec ce bébé en disant, non, c'est le mien. Mais ce n'est pas sa promesse. Elle a volé la promesse. Et c'est ce que des fois le diable vient. Il vient pour essayer de voler votre promesse. Mais le diable ne peut pas l'avoir. Parce que ce que Dieu donne, il ne se repent pas de son don et de son appel. En vérité, c'est elle. Elle doit se réjouir parce que la promesse arrive. Parce que les choses de Dieu arrivent. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'arriver. Mais nous, des fois, nous sommes dans cette attitude-là. Nous pleurons parce que nous disons, mais Seigneur, où es-tu? Mais le Seigneur dit, mais réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ma bonté arrive. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas apprendre. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais vous dire que vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Votre bénédiction, le diable ne peut pas le garder. Vos promesses, le diable ne peut pas le garder. Votre guérison, le diable ne peut pas le garder. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Réjouissez-vous. Parce que c'est la réalité. Elle devait se réjouir. Parce qu'elle, il y avait la bénédiction qui était là. Son fils, son enfant allait grandir. Parce que les choses vont arriver. La Bible dit, même si cela tarde, attends-toi l'Éternel et il agira. Je ne sais pas combien de temps ça va s'accomplir, vos promesses. Je ne sais pas combien de temps les choses de Dieu vont s'accomplir dans vos vies. Mais une chose qui est sûre et certaine, ce que Dieu vous a dit, cela va s'accomplir. Mais réjouissez-vous pour cela. Réjouissez-vous parce que des grandes choses sont en train d'arriver dans cette nation. Des grandes choses sont en train de s'accomplir dans cette église. Et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ne partez pas. Ne dites pas, oh, mais le pasteur Spinks me dit souvent, Dieu va bénir, mais je vois rien. Oui, tu vois rien parce que diable est en train de te voiler la face. Mais toi, ouvre les yeux dans la parole et tu verras que Dieu va te bénir abondamment. Parce que Dieu ne veut plus que tu tournes comme dans le désert, mais il veut que tu saisisses la bénédiction qu'il a pour toi. Et c'est pour ça que cette femme ne devait plus pleurer. Moi, je crois que le diable ne peut plus se réjouir de vous parce que vous êtes une église victorieuse. Vous savez, Église Victoire de la Québec, ce n'est pas un nom au hasard. Vous êtes appelés à la victoire. Vous êtes appelés à remporter des batailles. Mais ces batailles ne dépendent pas du pasteur Joël ou de son équipe pastorale, mais dépendent de chacun de vous. Vous devez prendre la victoire en disant, je suis dans une église de victoire, alors ma vie sera victoire. Amen. Ma vie sera une vie de... Ma vie sera une vie de... Ma vie sera une vie de... Amen. Acclamons le roi des rois.
Tu es bon. Pasteur Pan nous a posé la question, quelle est notre vision de Dieu? Et certains d'entre vous, vous avez besoin d'un face-à-face avec Dieu pour le voir. Mais je peux vous dire, j'étais adolescent. Je vais terminer avec ceci. J'étais adolescent, je me souviens, j'étais dans l'auto de mon oncle Daniel, qui est pasteur à Granby, ici. Puis j'ai dit, moi là, j'ai dit, je veux pas vivre juste pour m'acheter un véhicule. J'avais peut-être 17 ans. Je veux pas passer ma vie juste acheter un véhicule, ensuite m'acheter une maison, parce que je vais avoir payé toutes ces choses-là. Après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, peut-être on se marie avant, on a des enfants. Mais j'ai dit après, la vie, là, c'est pourquoi? Pourquoi qu'on est là vraiment? Parce qu'on peut faire ça. La majorité des gens vivent leur vie pour s'acheter un véhicule, ensuite s'achètent une maison. Ils vont prendre leur retraite. Mais qu'est-ce qui se passe après la retraite? Ils meurent. Est-ce qu'on vit juste pour du matériel? Quelle est votre vision de Dieu? Vous savez, vous avez tous une destinée en Dieu. Et la Bible nous parle de deux types de personnes. Les intelligents, les sages et les insensés. Les insensés, c'est ceux qui ne pensent jamais à demain. Ils vivent juste pour aujourd'hui. Ils disent, ben, je vais aller travailler, je vais gagner de l'argent. Vivez-vous juste pour de l'argent? Où on a une vision qu'il y a un Dieu réel qui nous attend aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et aujourd'hui, je vous souhaite tous et nos amis sur Internet, à la radio, un face-à-face avec Dieu. Je vous souhaite vraiment de réaliser que notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu de la religion, c'est un Dieu vivant. Je l'ai rencontré, j'avais vers 4 ans, mais plus tard, en 2004, j'ai eu une visitation de Dieu. Je sais que mon Dieu est vivant. Je l'ai rencontré, il a guéri ma femme, il a fait plein de choses. Vous avez le choix de faire partie des vivants, des sages qui réalisent qu'il y a un Dieu qui a créé cet univers. Ça l'a pas juste, ça, c'est pas juste apparu. Notre univers existe parce qu'il y a un créateur. S'il y a une création, il y a un créateur. Et un jour, la Bible dit, vous allez tous faire face à ce Dieu. Mais je vous souhaite de faire face à Dieu aujourd'hui, pas demain matin. Aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est le jour du salut. C'est tellement important parce que Dieu, comme le pasteur Pat nous a prêché, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime. Avez-vous une vision de ce Dieu compatissant qui a tout donné pour vous sauver? Bien, moi, je l'ai rencontré. Il vous aime avec un amour éternel. Il veut vous sortir de votre misère. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes spirituellement aveugle. Peut-être vous pensez que ça va bien dans votre vie. Mais si Jésus n'est pas avec vous, si vous ne marchez pas avec Jésus en ce moment, votre vie va très, très mal. Peut-être vous ne savez pas, mais vous êtes en route vers l'enfer. C'est ça que la Bible nous dit. Ça dérange les gens peut-être, mais si vous faites juste dire, Seigneur, je te donne ma main, révèle-toi à moi. Moi, je déclare aujourd'hui que chaque personne dans cette maison, que Dieu vous visite peut-être dans un rêve, peut-être, je vais parler en québécois, là, peut-être vous allez avoir la chienne de votre vie. Amen. Hallelujah. Moi, je l'espère que vous puissiez tous avoir une rencontre avec Dieu pour que vous puissiez sortir de votre sommeil. Certains d'entre vous, vous êtes déjà enfants de Dieu. Mais si vous n'êtes pas encore enfants de Dieu aujourd'hui, je vous souhaite une visitation de Dieu, que vous puissiez avoir un face-à-face avec lui pour que vous réalisiez que votre vie, ce n'est pas juste aujourd'hui. Ce n'est pas juste 100 ans sur la terre. Si vous vivez même à 100 ans, peut-être que vous allez vivre 75 ans. Peut-être c'est tout. Mais après, il y a beaucoup plus. Et Dieu aujourd'hui fait la grâce, il fait un cadeau. Il dit, j'existe. Ouvre tes yeux, réalise j'existe, j'ai un plan pour ta vie, c'est le meilleur plan possible, c'est le meilleur plan possible. Ouvre tes yeux et ouvre ton cœur et laisse-moi entrer dans ta vie. Et si vous le faites, si vous dites juste, ok Seigneur, révèle-toi à moi, Dieu va le faire. Est-ce qu'on peut juste dire ça, Seigneur, révèle-toi à moi? Pour les chrétiens, Dieu va continuer à se révéler, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait de Jésus le Seigneur de leur vie, je prie que vous puissiez vraiment le rencontrer. Et vous verrez, votre vie ne sera plus jamais pareille. Vous dites, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai écouté un pasteur prêcher que Dieu était bon, toutes ces bonnes choses, c'est super, mais j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de savoir que tu existes vraiment. Et si vous êtes prêt et vous dites, Seigneur, révèle-toi à moi, il va le faire, comme jamais auparavant. Amen. Gloire à Dieu. Et on va chanter un chant. On va terminer avec ce chant-là. Je vous invite pendant ce chant, prier et demander à Dieu. Si vous ne connaissez pas encore, dites, Seigneur Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Ce n'est pas de la religion que je veux une relation avec toi. C'est ça que je veux, une relation. Je veux connaître ce Dieu qui guérit encore les malades. Je veux te connaître vraiment, toi, le Dieu qu'on a entendu parler ce matin. Amen. Juste en terminant cette réunion, je veux terminer avec une chose très importante. Si vous n'avez jamais dit oui à Jésus, aujourd'hui, on veut ouvrir l'autel. Ça ne prendra pas de temps. Ce n'est pas obligé de prendre super longtemps. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut ouvrir la porte. On veut vous ouvrir la place ici. Si vous n'avez jamais dit, Jésus, je veux te connaître, je veux te donner ma vie. Aujourd'hui, je vais ouvrir l'autel ici. Venez en avant, je vais prier avec vous. Vous allez transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et Dieu va commencer à se révéler à vous, vous montrer comment vous pouvez marcher pour lui. Ce chant-là, ça dit, tant que je vivrai, est-ce que vous allez gaspiller votre vie pour vivre pour vous-même ou vous allez l'investir pour son royaume, pour le royaume de Dieu? Allez-vous apprendre à connaître Dieu? Allez-vous investir votre vie dans les choses éternelles ou la gaspiller pour vivre pour vous-même? Ça donne absolument rien. Vivre 100 ans, admettons, vous vivez 100 ans, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous aurez accompli qui a vraiment un but? Est-ce qu'il y a un but à votre vie? Bien, il y a un but. Dieu a payé et envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour vous offrir son fils Jésus. Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette qui vous séparait entre Dieu, votre dette de péché. Jésus est mort sur la croix pour vous, par amour pour vous. Je vais ouvrir ici l'autel, on va prier, vous déplacer, vous marcher sur votre orgueil et vous dites, aujourd'hui, je me donne à Jésus. Je me donne à Jésus et puis je vais lui laisser prendre le contrôle de ma vie. Si vous ne l'avez jamais fait, on va faire ça. Puis je vais prier aussi pour nos amis sur Internet, à la radio. Ensuite, on va libérer l'assemblée. On va juste conclure. Mais c'est tellement important. Vous ne voulez pas passer à côté. Un jour, vous allez revoir cette journée. Si vous passez à côté, vous allez revoir cette journée. Et puis Dieu va dire, voici, c'était votre moment que je vous ai offert. Ne passez pas à côté. On chante une dernière fois. Je vais vous inviter, déplacez-vous. On n'embarque pas dans une religion. On dit, je veux une relation avec Dieu. Je vais établir cette relation. C'est tout ce que je veux. Je vais établir une relation avec Dieu aujourd'hui. Donc, sortez de votre place, venez en avant. Je vais prier avec vous et je vais m'accorder avec vous pour que vous puissiez avoir cette relation avec Dieu. Maintenant, on va le prier. Amen. Gloire à Dieu. On chante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va juste prier. Je vais vous demander, répétez après moi cette prière sincère. Et puis, sur nos amis à la radio, sur Internet, vous pouvez prier également. Et le moment que vous priez, c'est facile à faire. C'est juste une prière, mais c'est un engagement du cœur. C'est ça que Dieu voit, l'engagement du cœur. Et le moment que vous dites oui à Jésus, l'Esprit de Dieu vient et vous adopte dans la famille de Dieu. Votre esprit qui est mort en ce moment, tout d'un coup, la vie de Dieu vient en vous. Votre vie change à tout jamais. Donc, répétez après moi. Tout le monde ici dans cette maison, répétez, Père éternel, je viens devant toi, je te donne ma vie, pardonne-moi, lave-moi, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Au nom de Jésus, amen. Si vous avez fait cette prière, contactez-nous en écrivant à info@evqmedia.com, info@evqmedia.com, et puis on va se réjouir avec vous. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu sait ce qu'on peut se réjouir et acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, que le shalom de Dieu soit sur vous. Merci Pasteur Pat et Pasteur Gladys. Vous pouvez les saluer en partant. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bonne semaine. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.